Ici, Axon Capital. Comprends le système, pas juste le graphique. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui sur 2008 va changer la façon dont tu évalues le risque pour toujours. La leçon, comment une crise impossible est devenue inévitable. Le 15 septembre 2008, Lehman Brothers, la quatrième banque d'investissement américaine, avec 25 000 employés et 639 milliards de dollars d'actifs, dépose le bilan. C'est la plus grande faillite de l'histoire financière américaine. Les marchés mondiaux s'effondrent, le crédit interbancaire se fige. Le monde entre dans la pire récession depuis 1929. Pourtant, en 2006 et 2007, pratiquement personne ne voyait venir cette catastrophe. Les agences de notation accordaient des AAA à des produits financiers bâtis sur du vent. Les banques centrales parlaient de grande modération. Ben Bernanke, le président de la Fed, déclarait en 2007 que les problèmes du marché immobilier étaient « contenus ». Comment quelque chose d'aussi monumental a-t-il pu passer inaperçu ? La réponse tient en un mot, la titrisation. Les banques américaines accordaient des prêts immobiliers à des ménages qui n'avaient pas les moyens de les rembourser, les fameux subprimes. Mais au lieu de garder ces prêts risqués dans leur bilan, elles les regroupaient en produits financiers complexes, appelés CDO, Collateralized Debt Obligations, qu'elles vendaient ensuite à des investisseurs du monde entier. Le mécanisme était élégant en théorie. En diversifiant des milliers de prêts dans un même produit, le risque était supposé se diluer. En pratique, le risque avait simplement migré. Il était devenu invisible, réparti dans les bilans de centaines d'institutions financières à travers le monde, personne ne sachant vraiment ce que l'autre détenait. Quand les prix de l'immobilier américain ont commencé à baisser en 2006, chose qui n'était pas censée arriver selon les modèles, les premières défaillances sur les prêts subprime ont déclenché une réaction en chaîne. Les CDO ont perdu leur valeur. Les banques qui les détenaient ont dû reconnaître des pertes massives. La confiance interbancaire s'est évaporée et le crédit, le carburant de l'économie moderne, s'est asséché. L'anecdote, Michael Burry, l'homme qui avait vu juste. Parmi les très rares personnes à avoir anticipé la catastrophe, il y a Michael Burry, médecin reconverti en gestionnaire de fonds. Cet homme atteint du syndrome d'Asperger avait passé des mois à lire les prospectus de milliers de CDO. Un travail que personne ne faisait parce que tout le monde pensait que les agences de notation le faisaient à leur place. Sa conclusion était claire. Les produits étaient beaucoup plus risqués que leur notation ne l'indiquait. En 2005, il contacte Goldman Sachs et d'autres grandes banques pour acheter des crédits default swaps, des assurances contre le défaut de ces produits. Les banquiers lui vendent sans hésiter, persuadés de faire une bonne affaire. En 2007-2008, son fonds Sion Capital enregistre un rendement de plus 489% pendant que le reste du monde s'effondre. Il gagne plus d'1 milliard de dollars. Ses investisseurs, eux, avaient tenté de le forcer à sortir de ses positions en 2006, tellement son analyse semblait délirante. L'histoire de Michael Burry illustre une leçon universelle. Quand tout le monde est d'accord, c'est souvent là que réside le plus grand risque. Le consensus crée l'aveuglement collectif. La pensée indépendante, même douloureuse à court terme, est la seule protection contre les catastrophes systémiques. Ce que tout investisseur doit retenir, la crise de 2008 n'était pas une anomalie imprévisible. C'était la conséquence logique de plusieurs ingrédients qui réunis créent toujours une tempête parfaite. Premier ingrédient, le levier excessif. Les banques opéraient avec des ratios d'endettement de 30 pour 1. Pour chaque dollar de capital, elles empruntaient 30 dollars. Une baisse de 3% de la valeur de leurs actifs suffisait à les rendre insolvables. Le levier amplifie les gains dans la hausse, il amplifie les pertes dans la baisse, avec une brutalité redoutable. Deuxième ingrédient, la complexité opaque. Plus un produit financier est difficile à comprendre, plus il est facile de cacher le risque à l'intérieur. Warren Buffett appelait les dérivés complexes des armes financières de destruction massive dès 2003, 5 ans avant que le monde le découvre à ses dépens. Troisième ingrédient, le risque de corrélation ignoré. Tous les actifs censés être diversifiés dans les CDO se sont effondrés en même temps. Quand les marchés paniquent, la corrélation entre actifs monte vers 1, tout baisse ensemble. La diversification protège contre les risques normaux, pas contre les crises systémiques. Quatrième ingrédient, l'hubris collective. La conviction que cette fois c'est différent, que les marchés immobiliers ne pouvaient pas baisser nationalement aux États-Unis, que les modèles de risque capturaient toutes les éventualités. L'arrogance intellectuelle précède toujours les grandes catastrophes financières. Pour toi, en tant qu'investisseur, la leçon pratique est celle-ci. Méfie-toi de ce que tu ne comprends pas. Si un placement promet du rendement sans que tu puisses expliquer clairement d'où il vient et quel risque tu prends, c'est que le risque est caché, pas qu'il est absent. La transparence et la simplicité ne sont pas des défauts d'un portefeuille, ce sont ses premières défenses. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension des mécanismes de marché et construire une méthode d'investissement solide, c'est exactement ce que nous développons chez Axon Capital. Le lien est dans la bio.